écoutez Cédric du Sport sur Choc FM.
Bonjour, c'est Cédric du Sport sur Choc FM en ce troisième samedi du mois de mars 2024. Cédric Ngon sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. On est de retour après la semaine dernière. On a une émission spéciale avec en deuxième partie. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. En tout cas, l'introvue ou l'interview est disponible sur chocfm.ca dans la rubrique podcast. On a eu une interview très longue, là, 29 minutes, avec un ancien boxeur. Et on avait parlé de l'actualité, les grands combats de boxe et de MMA qui avaient eu lieu la semaine dernière. En tout cas, c'était avec Stéphane, boxeur camerounais. Enfin, il a plusieurs origines, hein. Camerounais, français, un petit peu américain. En tout cas, l'interview était très agréable et on l'en remercie encore une fois. Et d'ailleurs, en deuxième partie, aujourd'hui, dans cette émission enregistrée, donc vous allez écouter en deuxième partie, on va faire quand même un long segment sur un retour sur les combats qui avaient eu lieu la semaine dernière entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Et on va dire un mot sur le combat entre Cédric Doumbé et Baki. On va un peu analyser tout cela parce que ça avait surpris beaucoup de gens et c'est quelque chose qui revient dans l'actu. Ça avait choqué tout le monde de toute façon et ça a suscité l'intérêt. Bon, cette première partie, en ce samedi 16 mars 2024, on va parler bien sûr du foot ou du soccer. On va faire un long segment quand même sur la MLS. On n'en parle pas assez souvent. Et là, on a repris, par exemple, vous savez, depuis plusieurs années, je couvre l'impact, ce qui s'appelait l'impact de Montréal, qui est devenu le CF Montréal pour Choc FM. Et puis, j'assiste aux conférences de presse de fin de match. Malheureusement, cette semaine, il y a eu un problème technique. Donc, je n'ai pas pu enregistrer le son après la conférence de presse. Mais c'était très important d'y assister. Puisque là, c'était la première rencontre avec le coach Laurent Courtois, ancien joueur français. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, le CF Montréal avait battu l'Inter de Miami de Léo Messi. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus. Pour commencer, on va parler d'abord des matchs en Europe, les principaux championnats. Comme vous le savez, on le fait à chaque fois. Déjà, en milieu de semaine, il y a le Paris Saint-Germain qui avait joué son match de quart de finale de la Coupe de France et qui avait battu Nice 3-1. Donc, ils vont en demi-finale. Je pense qu'en demi-finale, ils vont affronter Rennes. J'avais pas suivi les matchs d'avant du quart de finale de la Coupe de France, mais tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ils continuent comme ça sur leur chemin, sur leur lancée. D'abord, le vendredi, le match qui va avoir lieu, c'est Toulouse qui va affronter Lyon. Toulouse qui est 11e, Lyon qui est 10e. Donc, ce sont deux équipes qui s'approprient à des niveaux équivalents. Lyon qui essaie de se replacer pour les places européennes. Je pense que c'est déjà terminé pour eux, mais qui sait, en réussissant peut-être une belle série de victoires, ils pourraient se replacer pour ça, alors que Toulouse tout simplement est là pour le maintien. Le même vendredi 15 février en Espagne, c'est la Sociedad qui va rencontrer Cadix. Donc là, c'est le 6e contre le 18e. Sociedad qui aura l'occasion de faire un coup, puisque maintenant on sait qu'ils sont éliminés de la Champions League après leur défaite la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. Au championnat d'Allemagne, ce sera Cologne contre Leipzig, le 16e contre le 5e. Au championnat d'Italie, ce sera Empoli contre Bologne. Et il n'y aura pas d'autres grandes affiches dans les championnats européens. Dans les matchs du samedi, l'essentiel des matchs, la plupart du temps en Europe, ça a lieu le samedi. Le samedi et le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on a en France? C'est Nantes qui va affronter Strasbourg. Nantes qui est sur une pente dangereuse, la 16e. Donc, à 3 places d'être élite, de passer en Ligue 2. Ça va être le temps de se... À 2 places, qu'est-ce que je dis? C'est pas à 3, c'est le 17e et le 18e qui restent aller en Ligue 2. Donc, Nantes qui intéresse rêver, alors que Strasbourg aussi... Et sur une pente descendante, ils ont intérêt eux aussi à se réveiller, donc le 16e contre le 14e. Deux autres équipes en forme qui jouent aussi le samedi matin, c'est Lens qui va affronter Nice, donc le 5e contre le 6e. En Ligue 2, on en parle de temps en temps, quelques anciens pensionnaires de première division, ce qu'on appelait avant la première division qui est maintenant la Ligue 1. Donc Auxerre, le premier qui va affronter Caen, Bastia qui va affronter Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre d'affiche? Non, il n'y aura pas d'autres affiche importante en Ligue 2. Dans le championnat d'Angleterre, beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Déjà, on sait que Arsenal contre Chelsea a été reporté. Lutton, qui avait réussi une performance assez étonnante en milieu de semaine. Ils menaient 3 buts à 0 à l'extérieur. Ensuite, ils ont été battus et rattrapés 4 buts à 3. Là, franchement, c'était énorme contre-performance des joueurs de Lutton. Mener 3 à 0 à la mi-temps et perdre le match 4 buts à 3, c'est quand même très très fort. Donc, Luton qui va affronter le Nottingham Forest, le 18e contre le 17e. Ensuite, ce sera Burnley contre Brentford, le 19e contre le 15e. Wolverhampton qui va affronter Bournemouth. Bournemouth, c'est justement l'équipe qui affrontait Luton en milieu de semaine et qui était menée 3 à 0 et qui avait réussi l'énorme performance de gagner le match 4 buts à 3. Autre match le samedi, c'est Manchester United qui va affronter Sheffield United, donc le 6e contre le 20e. Là, Manchester United aura intérêt quand même à gagner ce match-là. Là, on apprend qu'il a été reporté. Je ne suis pas sûr pourquoi. C'est peut-être dû au fait que Manchester doit jouer peut-être un match de coupe, mais je ne suis pas certain. Deux autres matchs dans la première ligue, ce sera Crystal Palace contre Newcastle. Là, ce sera le 14e contre le 10e. Et pour finir la journée du samedi, ce sera Fulham contre Tottenham. Tottenham qui est en train de bien se relancer dans la place, dans la course aux places en Champions League. Dans le championnat d'Espagne, 4 matchs qui auront lieu. Mallorca contre Grenade, le 15e contre le 19e. Osasuna contre le Real Madrid. Là, ça devrait être un match facile pour le Real Madrid. Getafe contre Riron, donc ce sera le 12e contre le 2e. Riron qui est une équipe décidément très étonnante, toujours 2e. Dans la Liga Española, c'est comme l'équivalent de Brest dans le championnat de France. Et pour finir, en Espagne, le samedi, ce sera l'Athletic Bilbao contre Alavés. Championnat d'Allemagne, on n'en parle pas souvent parce qu'on s'en fout, là, en toute honnêteté, mais quand même une affiche qui vaut le coup de jeter un coup d'œil, ce sera Darmstadt le 18e, contre le Bayern Munich. Là, le Bayern n'aura pas intérêt à perdre encore une fois, puisque Darmstadt est tout simplement 18e, donc dernier du championnat d'Allemagne. En Italie, Monza va affronter Cagliari, Udinese va affronter Torino, Salernitana va affronter Lecce, alors que Frosinone va affronter la Lazio de Rome. C'était ça, l'ensemble des matchs dans le championnat européen pour le samedi. Pour conclure, le dimanche, c'est là qu'il y aura l'essentiel des autres matchs. C'est Brest qui va affronter Lille, donc le 2e contre le 4e. Ça va être une affiche probablement très intéressante. Monaco va affronter Lorient, le 3e contre le 15e. Clermont, qui est actuellement le dernier du championnat de France, qui va affronter Le Havre. Clermont, en perdant ce match-là, potentiellement aurait déjà un pied en Ligue 2, puisque là maintenant on a la 26e journée. Il reste quoi? 18 journées, je pense, dans le championnat de France. Les points vont être très chers, ça va être très très cher. Clermont a clairement le devoir de se rattraper là. Ils n'ont plus le droit de perdre beaucoup de matchs là d'ici la fin de la saison. Je pense déjà qu'ils sont condamnés, mais ça va être, disons, le désespoir quoi, qui peut vraiment amener cette équipe là à survivre dans ce parcours très 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 pénible là, dans le championnat de France. Reims va affronter Metz. Reims qui reste sur une performance assez intéressante avec un match nul au Parc face au PSG. Donc il va affronter Metz qui est 17e. Mais 17e, je me rappelle bien que Metz avait réussi une grosse performance lors de son dernier match. Donc peut-être ils peuvent poursuivre sur cette lancée-là. Rennes qui va affronter Marseille, ça va être une affiche très intéressante, puisque ça va être le 8e contre le 7e. Marseille, depuis l'arrivée du coach, de l'ex-coach de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, et avec les performances éclatantes, extraordinaires de mon compatriote Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille c'est tout simplement l'équipe la plus en forme en France, c'est peut-être l'une des équipes les plus en forme en Europe depuis plusieurs matchs. Ils marquent au minimum 3-4 buts par match. Donc là, ils vont se rendre sur le stade de Rennes, je pense qu'on appelle le stade la route de l'Orient. Rennes qui est une équipe assez combative, mais qui n'arrive pas à être consistante. Donc là, ça va être intéressant de voir cette confrontation. Généralement, Marseille réussit bien à l'extérieur, parce qu'ils ont un style de jeu très, très offensif, très flamboyant, avec beaucoup de liberté pour les joueurs sur le terrain. Ils défendent pas mal, mais surtout, ils attaquent vraiment avec beaucoup de fougue. Si Rennes marque en premier, ça peut être une soirée difficile pour les Marseillais. Enfin, soirée, puisqu'ils vont jouer en fin d'après-midi. Mais si, par contre, Marseille gagne, marque en premier, là, ça peut être un festival pour eux. Parce qu'ils arrivent vraiment, avec le nouveau style de Gasset, là, je reconnais, même si j'aime pas beaucoup Marseille, là, en toute objectivité, ils arrivent à faire des choses intéressantes. Ça va être l'occasion pour eux de bien se mesurer, surtout que la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, ils vont affronter tout simplement le Paris Saint-Germain. Donc là, ça va être l'occasion pour eux de se tenir prêts à 2 semaines de cette compétition, ce qu'on appelle le grand classique en France. Montpellier va affronter le Paris Saint-Germain. Ça, ce sera pour conclure la journée de championnat. Paris qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Je pense que là, ça va être le moment pour eux de mettre les pendules à l'heure et qu'ils auront à cœur de gagner ce match-là à l'extérieur, à ce qu'on appelle la paillade. Donc ça, c'est à Montpellier. Dans le championnat d'Angleterre, le dimanche, Everton contre Liverpool est déjà reporté. Je ne suis pas sûr pourquoi. C'est peut-être dû à un match de coupe qui doit avoir lieu. West Ham va affronter Aston Villa. Brighton devrait affronter Manchester City, mais ce match-là aussi est reporté. La semaine dernière, il y avait eu un match, vraiment un duel au sommet en Angleterre entre Manchester City et Liverpool. Ça avait accouché d'un match nul. Mais le match, si vous avez l'occasion, allez voir les meilleures actions. C'est vraiment, c'était un match très 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 intéressant avec beaucoup d'actions, beaucoup de rythme dans le jeu entre les deux équipes. D'ailleurs, je pense que Liverpool aurait dû bénéficier d'un penalty. Là, il y avait eu une faute assez grossière d'un joueur de Manchester City. Je pense que c'est Doku sur un joueur de Manchester City. Mais bon, toujours sur un joueur de Liverpool, mais toujours est-il que ça n'a pas été sifflé. Les erreurs d'arbitrage, malheureusement, font partie du jeu. Championnat d'Espagne, beaucoup de matchs. C'est ça, l'essentiel des matchs auront lieu ce jour-là, le dimanche. Donc, Séville contre Vigo, 14e contre le 17e. Villarreal contre l'FC Valence, le 11e contre le 8e. Las Palmas contre Almeria, ce sera le 9e contre le tout dernier du championnat, Almeria. Alors que le Rayo Vallecano va affronter le Betis Séville. Donc, ce sera le 16e contre le 7e. Et la grosse affiche en Espagne, ça va être le. Ça va être, pas le ça va être. On fait pas de liaison là comme ça. Donc ça va être le Atlético Madrid qui est actuellement quatrième après sa qualification en Coupe d'Europe. La Champions League, on va revenir dans juste quelques instants. Donc l'Atlético Madrid qui va affronter le FC Barcelone. Donc le quatrième contre le troisième. On peut faire difficilement plus égaux que ces deux équipes-là. Et bien, ça va être intéressant de voir ça. En Allemagne. Une affiche intéressante, c'est le premier du championnat, c'est Fribourg qui va affronter le Bayer Leverkusen qui reste invaincu en Allemagne. Et je pense que c'est le dernier club européen invaincu. Pour finir dans ces journées de championnat européen, là, c'est la Juventus de Turin qui va jouer contre la Genoa, 3e contre le 12e, l'Hellas Vérone contre le AC Milan, le AS Rome contre Sassuolo, Atalanta Bergame contre Fiorentina. Et pour finir, ce sera la très 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 grosse affiche, probablement l'affiche du week-end. En Europe, ce sera l'Inter Milan le premier qui reste sur une déconvenue. Donc, une élimination en Champions League face au l'Atlético Madrid, à l'extérieur de Madrid. Ils vont jouer contre le 7e, le SC Napoli, éliminé aussi de la Champions League. On va dire un mot sur la Champions League, puisque c'est maintenant toutes les équipes sont officiellement qualifiées pour les quarts de finale. Au moment où cette émission est enregistrée, le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Le tirage au sort a lieu à midi, je pense, en Europe. Donc, à ce moment-là, on aura déjà enregistré l'émission. Toujours est-il que la semaine prochaine, on aura l'occasion de revenir dessus. Allez, on rappelle les qualifiés. Donc, dans la confrontation Leipzig et Madrid, c'était Madrid qui s'était qualifié grâce à un match nul à domicile à Santiago Bernabéu. Dans la confrontation entre Copenhague et Manchester City avait gagné 3 buts à 1 à l'aller, il avait gagné 3 buts à 1 au retour, donc qualifié tranquillement face aux Danois de FC Copenhague. Dans la confrontation, le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, victoire du PSG 2 buts à 0 à l'aller et victoire 2 buts à 1 au retour. Dans le duel entre la Lazio de Rome, l'équipe italienne, et le Bayern Munich, victoire de la Rome. 1 but à 0 à l'aller et victoire de Munich au retour 3 buts à 0. Donc, qualification des Allemands de Munich. Dans le duel cette semaine entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund, c'était qualification du Dortmund tranquille 2 buts à 0 avec leur victoire au retour dans leur stade devant ce qu'on appelle le mur jaune. Dans la confrontation, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, c'était une victoire par la plus courte des marges à l'aller de l'Inter Milan, FC Internazionale, c'est comme ça qu'on les appelle en fait. Et au retour, ils ont perdu 2 buts à 1. Donc, c'était à égalité parfaite. Ils sont passés par les tirs au but. Et dans cet exercice-là, ce sont les Espagnols qui se sont montrés plus adroits. Vraiment, j'étais très étonné de voir autant de tirs au but, de pénalty ratés par les Italiens. Bon, ouais, écoutez, ça arrive, hein. On appelle ça une loterie, mais je pense qu'il y a plus de côté technique et mental dans l'exercice de tir au but. Donc, à ce jeu-là, ce sont les Espagnols qui sont qualifiés 3 tirs au but à 2. Dans les deux dernières confrontations, c'est le Porto qui affrontait Arsenal. Là aussi, ça s'est fini au tir au but. Victoire 1 à 0 des Portugais chez eux et victoire d'Arsenal 1 but à 0 chez eux à Londres. Et la qualification au tir au but, 4 buts, tir au but à 2. Dans la dernière confrontation, c'était le SC Napoli face au FC Barcelone. Donc 1 but partout à l'aller et victoire de Barcelone 3 buts à 1 au retour dans un match assez spectaculaire avec beaucoup d'émotions. Mais bon, la qualification, c'est ce qui était important. Et ben, c'est une belle qualification pour le FC Barcelone. Les Catalans, ça faisait plusieurs années qu'ils échouaient à passer le premier tour. Donc c'est tant mieux pour la troupe de Xavi. On avait promis en cette première partie de l'émission de Cédric du Sport, en ce samedi 16 mars 2024, de faire un gros format sur la MLS. Ben, déjà, on va donner les matchs pour la semaine. Et puis on va dire un mot, donner plus d'actu sur la MLS. On le fait pas souvent là. Avant de parler de la MLS, je voulais dire un mot sur un petit fait divers qui a eu lieu pendant la semaine. Là, on a appris, mais malheureusement pour lui, un joueur de foot camerounais qui s'appelle Nathan Douala. On a appris que ce joueur-là, qui était une des sensations quand même de l'équipe du Cameroun pendant la CAN, c'était soi-disant le joueur le plus jeune de toute la CAN, que ce joueur-là avait 17 ans. Moi, l'ayant vu la première fois, j'avais des doutes. Vraiment, j'avais des doutes en voyant ses visages, ses traits faciaux. Je me suis dit, non, c'est impossible qu'il ait 17 ans. J'avais vraiment un gros doute là-dessus. Et là, on a appris que ce joueur-là avait falsifié son âge. Ce n'est pas nouveau. En Afrique, il y a souvent des joueurs qui falsifient leur âge. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas en Afrique, ça s'est fait aussi en Amérique du Sud. Ça s'est fait aussi en Asie. Je ne sais pas si ça se fait en Europe. J'ai un doute que ça se fasse notamment dans les pays de l'Est. Toujours est-il que c'est malheureux pour lui, parce que c'est un joueur bah, assez technique. J'ai vu quelques actions de lui comme ça en vidéo. Mais c'est surtout le fait que l'équipe, enfin la Fédération camerounaise de football, c'est là en 2024 qui décide de sévir sur ce fléau-là des âges falsifiés. Mais on ne peut difficilement croire que ce sont été les premiers à le faire. À son époque déjà, l'ex-capitaine et ex-coach de l'équipe du Cameroun, Rigobert Song, c'était connu qu'il avait falsifié son âge. Roger Milla, c'était connu que lui aussi il était plus âgé que ce que l'on voulait croire. Même Samuel Eto'o, qui est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, il y a des gros doutes sur son âge. Déjà à l'époque, même son coach de l'époque, José Mourinho, s'était moqué de lui en imitant la démarche d'un vieux avec une canne. Donc, ce n'est pas un fait juste qui appartient aux Camerounais, mais encore moins à ce jeune-là, Nathan Douala, ou je ne sais plus quel est son nom, Alexandra ou Alexandre Bardelli. On ne sait même plus quelle est sa véritable identité. Ce qui est grave là-dedans, c'est que le Cameroun risque de payer un lourd tribut pour cela. Il pourrait en effet être disqualifié pour les 2 prochaines Coupes d'Afrique pour avoir aligné un joueur dont l'identité était falsifiée. Et qu'est-ce qu'on va en dire par rapport à d'autres joueurs? Moi, mon propre pays, le Gabon, il y a eu un joueur comme ça, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale aussi. On avait douté sur sa date de naissance réelle. Et ça a été le cas aussi dans d'autres pays. C'est assez fréquent. Et c'est pas que dans le foot. Ça existe aussi dans le basket. Ça existe aussi dans le handball, dans pas mal de sports. C'est malheureux. Maintenant, c'est dommage pour le petit Nathan Douala parce que je pense pas qu'il soit trop âgé. Mais que ça lui tombe dessus comme ça va être compliqué pour la suite de sa carrière. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bon courage. Allez, on va revenir maintenant sur la MLS qu'on avait promis de le faire. Déjà, la MLS, c'est le championnat nord-américain professionnel qui regroupe les équipes du Canada et des États-Unis, surtout des États-Unis. Je vais donner le palmarès comme ça depuis, disons, une vingtaine d'années. Donc, en 96, c'était DC United qui était champion. Il était champion en 97 aussi. En 98, c'était le Chicago Fire. En 99, c'était DC United. Donc, DC United avait remporté 3 des 4 premiers championnats. Étrangement, Los Angeles Galaxy avait été deux fois en finale sans avoir gagné. En 2000, c'était Sporting de Kansas City. En 2001, c'était San Jose Earthquake. En 2002, Los Angeles Galaxy. En 2003, San Jose Earthquake encore. DC United qui l'emporta encore en 2004, décidément 5 titres ou un peu plus que ça. Los Angeles Galaxy en 2005. Houston Dynamo en 2006. Ils avaient gardé le titre en 2007. Columbus Crew en 2008. Real Salt Lake en 2009. En 2010, c'était Colorado Rapid, pardon. Los Angeles Galaxy champion en 2011, également champion en 2012. En 2013, c'était Sporting Kansas City. Los Angeles Galaxy en 2014. Il ne faut pas s'étonner de voir autant de fois Los Angeles Galaxy parce que c'est une équipe qui a souvent tendance à prendre des joueurs anciens, retraités des grands championnats européens pour joindre cette équipe-là. Donc en 2014, Los Angeles Galaxy. 2015, Portland Timbers. 2016, Seattle Sounders. Et à cette, je me rappelle très très bien, en 2016, il y avait la grande équipe de Toronto FC. Il y avait les Giovinco, il y avait les Altidore, il y avait Michael Bradley. Il y avait vraiment une très très grosse équipe. Et Toronto avait fini en finale contre eux. Ils avaient pu prendre leur revanche l'année suivante, puisque c'était le seul titre remporté par l'équipe de Toronto. C'était en 2017 face au même Seattle Sounders et ça avait été un match épique, je me rappelle encore. En 2018, c'était Atlanta United qui était champion. En 2019, la dernière finale jouée par une équipe canadienne, c'était le Seattle Sounders, encore une fois face au Toronto FC. Ça, c'était la dernière danse avec les Altidore, avec les Giovinco et tout cela en 2019. Juste avant le Covid. En 2020, c'était le Columbus Crew qui avait fini champion. En 2021, New York City FC. En 2022, le Los Angeles FC, qui était une équipe relativement récente. Et en 2023, ça avait été le Columbus Crew, avec notamment le coach français, ancien coach de l'équipe du CF Montréal, qui s'appelle Wilfried Nancy. Donc ça, c'était pour le palmarès dans la MLS. Actuellement, dans le classement des buteurs, c'est le Belge Christian Benteke avec 3 buts en 3 matchs. Suivent le Grec Djoumakis, Lionel Messi, 3 buts en 3 matchs. En 4 matchs, je pense. Non, 3 matchs, puisqu'il n'a pas joué le dernier match là. Jovetic, Anthony, tous à 3 buts. Suivent Herbers, Hernandez, Puig, Pouki, Bunbury et Gil. Et là, dans ce classement-là, pas de Canadiens. Dans les classements à l'Est. Donc pour l'instant c'est l'Inter Miami qui est en tête avec en 4 matchs 2 victoires et un nul et une défaite. Mais il reste sur une défaite face au CF Montréal. Un match vraiment très 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 agréable à suivre. Je pense c'est c'est le CF Montréal qui ouvra le score. Ensuite, ils ont mis un deuxième but. Et après ça, l'Inter Miami avait été remonté à 2 buts à 1. Ensuite, Montréal en avait remis un autre à 3 buts à 1. L'Inter Miami était revenu à 3 buts à 2. Malgré les assauts répétés de l'Inter Miami, Montréal avait résisté. Il avait remporté 3 buts à 2. Une victoire de prestige sur le terrain de l'Inter Miami avec l'absence de Léo Messi, apparemment une blessure. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent avec Léo Messi depuis qu'il est arrivé en MLS. Il est souvent forfait pour des matchs pour lesquels les gens l'attendent souvent, notamment des matchs contre des équipes canadiennes. Je ne sais pas ce que la MLS compte faire par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment injuste pour les gens qui payent très cher pour aller le voir, d'autant que, je ne sais pas comment c'est permis ça, mais la MLS permet que les clubs, les tickets, pour les matchs pour lesquels Léo Messi joue, les tickets soient augmentés. Augmentés, mais vraiment augmentés à un niveau pas possible là. Par exemple, pour les matchs à Montréal, à ma connaissance, c'est près de 400 dollars, alors que les prix normaux des tickets, c'est pas plus de 30 à 40. Donc 10 fois les prix normaux des tickets, en tout cas. Et qu'ils soient forfaits pour des matchs, alors que les gens payent très cher pour le voir, notamment à l'extérieur, je trouve que c'est pas normal. Mais bon. C'est eux, c'est leur business, c'est eux qui décident comment ils fixent les tickets. S'il y a des personnes qui sont capables de payer, tant mieux pour eux. Donc, je disais, classement dans la conférence Est, dans la MLS, c'est l'Inter Miami qui est en tête, suivi par le CF Montréal qui fait un beau début de saison. 2 victoires, 1 nul en 3 matchs jusque-là, donc invaincu. Ensuite, New York Red Bull, 3e. Columbus Crew, 4e. Toronto FC, 5e. Là, c'est pas mal, là. Toronto FC, en 3 matchs, 2 victoires et 1 défaite. DC United est 6e. FC Cincinnati, Charlotte FC, Atlanta United, Nashville FC, Philadelphia Union, Chicago Fire, Orlando City, New York City FC. Et enfin, pour clore la marche, 15e, c'est le New England Revolution. On va dire un mot sur la conférence Ouest. Avec les classements, c'est Portland qui est en tête, suivi par Minnesota United, Los Angeles Galaxy, Saint-Louis City, Vancouver Whitecaps, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Real Salt Lake, Colorado Rapid, Los Angeles FC, FC Dallas, Sporting Kansas City, Austin FC, Houston Dynamo, Seattle Sounders. Étrangement, là, c'est souvent une équipe qui est très performante, mais qui pour l'instant est 13e, alors que San Jose Earthquake est dernier pour l'instant dans la conférence ouest de la MLS. C'est sur cette note de soccer que on va terminer cette première partie des Cédric du Sport. En deuxième partie, on va faire un gros format sur, je vous l'avais dit là, sur le combat entre les combats qui ont eu lieu là, dans la que ce soit en boxe ou que ce soit en MMA, il y a eu des combats. Là, on a parlé de comment il s'appelle, de Cédric Doumbé. On a parlé de Francis Ngannou. Il y a aussi eu un combat qui avait été intéressant entre Saint-Pierre, Benoît, ben, j'ai dit Saint-Pierre, Benoît Saint-Denis et Benoît Saint-Denis. Il y a aussi qui avait été battu là. Ça a été vraiment une grosse semaine de combats là. Et franchement, ça a été intéressant de, ça va être intéressant de revenir là-dessus parce que au-delà des défaites qu'on a constatées, c'est surtout qu'on reconnaît qu'il y a une vraie différence entre la boxe et les combats de rue, tout simplement. Donc, on va essayer de revenir sur cela en détail au cours de la deuxième partie de cette émission de Cédric Desport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. On revient dans quelques instants. Restez avec nous après quelques publicités sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. On revient dans quelques instants.
Écoutez Cédric du Sport sur Choc FM. Vous écoutez Cédric du Sport sur Choc FM.